Le Seigneur savait exactement qui serait là cet après-midi et j'aimerais qu'on puisse parler, partager un petit peu sur les soupirs. Même le dernier chant qu'on vient de chanter, est-ce que, au-delà de cette prière, est-ce que ce n'est pas quelque part un soupir de notre cœur ? Seigneur, interviens, viens guérir ce pays et combien le pays de France a besoin donc de la grâce de Dieu. Je veux donc parler des soupirs qui sortent au plus profond de notre être. Alors bien sûr, ça peut être des soupirs, alors j'ai mis là sur mes notes des soupirs de douleur, soupirs de chagrin, de peine, de regret, mais ça peut être aussi, il ne faut pas être négatif, aussi des soupirs de gratitude, de soulagement, de contentement, de délivrance, et on aurait pu rallonger la liste, hein, bien sûr. Hein. Écoutez, pour cet après-midi, j'en ai relevé juste 3 dans la Bible, parce qu'on retrouve passablement des soupirs. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble les analyser, les regarder ensemble, et puis bien sûr tirer au travers de ces 3 soupirs humains, eh bien des enseignements eh bien pour nos propres vies spirituelles. Un premier soupir, il se trouve dans le livre de Job. Et c'est l'auteur du livre eh bien, qui va s'exprimer. Et on va lire ensemble Job chapitre 23, du verset 1 jusqu'au verset 9. Job chapitre 23, du verset 1 jusqu'au verset 9. Job, chapitre 23, du verset 1 à 9. Job prit la parole et dit « Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à me répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. » Emploierait-il toute sa force à me combattre ? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter ? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé ? Au Nord, je ne puis le voir. Se cache-t-il ? Au Midi, je ne puis le découvrir. Et on s'arrête là au niveau de la lecture. Vous l'avez compris, ici il y a un soupir d'un homme, et quel homme, qui à un moment donné, donc c'est Job, a connu eh bien, ce qu'on appelle dans le vrai sens du terme l'épreuve. Pour ceux qui ont lu et qui connaissent cette histoire, vous savez que cet homme, au travers de son épreuve, a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu quoi ? Il a perdu ses biens, il a perdu même ses troupeaux. Il a même à un moment donné perdu la confiance de son épouse. Il a, en plus de cela, contracté une maladie, un ulcère malin, nous dit la parole de Dieu, et tellement cet ulcère était présent sur tout son corps, il était obligé de se gratter avec un morceau de poterie pour se soulager. Job ne demande pas autre chose que de pouvoir plaider sa cause, et plaider sa cause devant Dieu, car il est persuadé qu'il sortirait justifié de la présence de Dieu. Mais d'après ce qu'on a lu, selon Job, il a beau chercher à droite, à gauche, il ne trouve pas. Et il se pose la question, est-ce que Dieu, eh bien, il est indisponible ou est-ce qu'il est peut-être introuvable ? Il ne reçoit aucune réponse de la part du ciel. Et c'est justement dans ce contexte que Job, le grand Job, l'homme intègre de son temps, va exprimer ce soupir. « Oh, si je savais où le trouver !» Si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Et c'est peut-être le soupir que quelqu'un pourrait exprimer cet après-midi. Même avec une carte de membre, même en étant croyant depuis plusieurs années, se poser des questions, mais où il est Dieu ? Je suis en train de souffrir, eh bien ce qui est peut-être innommable, ce que je ne peux même pas partager aux autres, mais où il est Dieu ? Et j'ai beau le chercher avec toutes les ressources que je peux avoir, mais le ciel semble être fermé. Pourquoi Dieu est-il silencieux ? Ah, parlons des silences de Dieu, les silences mystérieux de Dieu, car c'est vrai que quelquefois, eh bien, Dieu semble se taire. Mais ne nous méprenons pas, les silences de Dieu ne veulent pas dire qu'il est absent et aussi qu'il est sourd. Au contraire, j'ai envie de nous rappeler, puisque là j'ai affaire pour la plupart à des chrétiens, j'ai à cœur de vous rappeler que Dieu est plus que jamais tout près de nous. Et surtout, eh bien, quand on passe des moments difficiles, on a parlé ce matin de désert, et quand on traverse eh bien, des moments difficiles, le Seigneur, plus que jamais, il est à nos côtés. Et il nous soutient, il ne nous abandonne pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire une vérité dans Actes chapitre 17 et le verset 27. Je suppose que c'est affiché derrière mon dos, donc ne le cherchez pas. Il est dit, il, c'est qui il, c'est Dieu. Dieu a voulu que les hommes cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Et il rajoute, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Et j'ai envie de vous dire, de nous dire qu'il vit le quotidien avec nous. Quand on se lève du lit, il est avec nous. Et quand ce soir on va dormir, croyez-moi, nous on va eh bien, s'assoupir, dormir, mais lui il veillera encore et encore sur nous. J'ai cet exemple, c'est celui de Jacob. J'en ai un petit peu touché un mot ce matin, je crois, il me semble. J'en reparle cet après-midi, Jacob. Jacob qui a mis un petit peu la pagaille autour de lui, dans sa famille. Et le voilà, eh bien, se sauvant de la maison. Dans sa fuite coupable, eh bien, il ne savait pas qu'il avait le Dieu de miséricorde à ses côtés. Jusqu'à un moment donné, vous le savez, cette histoire dans Genèse chapitre 28, il s'endort, il fait un songe des plus miraculeux. Et c'est là qu'il réalise que Dieu est à ses côtés. Et c'est lui qui va dire dans Genèse chapitre 28, verset 16, la chose suivante. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Vous savez, quelquefois, on peut marcher avec le Seigneur et ne pas réaliser qu'il est à nos côtés. On va bien sûr louer le Seigneur pour ce qu'il a fait à la croix, on va bénir le Seigneur, mais quelquefois on oublie. Oui, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, mais le troisième jour après sa mort, il est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Le Seigneur qu'on sert, c'est un Jésus qui est vivant. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas un scoop, mais c'est une réalité. Jésus est là présent cet après-midi. Juste, c'est juste qu'on ne le voit pas, mais il est bel et bien présent. Et je le vois mal, les mains dans les poches, nous on peut les mettre. Mais lui, il est toujours présent, disposé pour bénir, pour soulager, pour faire du bien. Job, pour revenir à lui, dans son épreuve, a fini par trouver Dieu. Bien sûr, le Seigneur, même in extremis, a bien fini par a bien se révéler à ceux et celles qui se confient en lui. Et d'ailleurs, lui-même va dire, Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Et vous aussi, vous pouvez, cet après-midi, expérimenter la présence de Dieu. Alors bien sûr, il peut apparaître, il fait comme il veut, mais il peut se manifester au travers de vos propres besoins et se révéler à votre cœur. Il a dit d'ailleurs, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et si de tout notre cœur nous approchons de lui par la foi cet après-midi, il va se révéler à nos cœurs. Et comme mon frère l'a dit, il est capable de transformer, de changer des situations. Il est le Dieu de l'impossible. On y reviendra tout à l'heure. Si vous le cherchez de tout votre cœur, avec foi et avec persévérance, Dieu se révélera à vous. Alors mon frère, ma soeur, ne te décourage pas dans ton épreuve, dans ta difficulté. Peut-être tu pourrais te comparer ou t'identifier à Job. Job a vu Dieu et tu vas également le voir. Voilà un premier soupir, j'aimerais en voir un deuxième avec vous. Là on change de décor, je vous invite à pouvoir lire avec moi psaume chapitre 55. J'essaierai de ne pas être trop long cet après-midi, rien ne sert d'être long, c'est pas ça. Important, c'est l'ouverture de cœur, c'est la réception, l'écoute de la parole de Dieu qui va susciter la foi dans nos cœurs. Psaume chapitre 55 et juste les versets 7 et 9. Et là, on découvre un autre soupir, cette fois-ci, il est exprimé par le grand roi David, et qui n'est pas rien non plus. Et il nous est dit dans Psaume chapitre 55, les versets 7 à 9, « Je dis, oh si j'avais des ailes, les ailes de la colombe, alors je m'envolerais et je trouverais enfin le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. » Il s'accorde là une pause pour dire par la suite, « Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. » Vous savez qu'il y a 150 psaumes en tout, et on pourrait dire quelque part parmi tous ces psaumes, il n'est pas de plus touchant que celui qu'on vient de lire, le psaume 55. Voilà un homme qui est profondément blessé au plus profond de lui-même. Et je l'ai dit, c'est le grand roi David. Et pour cause, il a été blessé par l'un de ses meilleurs amis, son conseiller personnel, un certain Achitophel, qui le trahit en se rangeant aux côtés d'Absalom, le propre fils de David. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le savez, Achitophel semble avoir été le grand-père de Bathsheba. Quand on regarde, quand on recoupe un petit peu quelques versets, on découvre qu'il était ni plus ni moins le grand-père de Bathsheba. Donc c'était quelqu'un de très proche, Achitophel. Et là, on voit qu'il y a, au travers de ce chapitre, de ce chapitre 55 des psaumes, une trahison. Et David, là, est trahi par son ami Achitophel et il en est profondément, profondément blessé. De plus, on découvre au travers de ce chapitre 55 que David est dans l'angoisse. Et dans l'angoisse parce que, on menace de le tuer. Et celui qui veut le tuer, c'est ni plus ni moins son propre fils Absalom. On peut lire, par exemple, ce texte en psaume, chapitre 55, du verset 1 à 6. Regardez ce qu'il va dire, même à partir du verset 2. « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Qui a dit que même dans notre marche chrétienne, on ne puisse pas à un moment donné connaître aussi l'angoisse? J'ai même envie de vous dire même la dépression, la peur. Nous sommes avant tout des êtres humains, bien sûr sauvés par grâce. Mais combien nous avons besoin jour après jour de la dépendance de Dieu. J'aime beaucoup David parce qu'il est très transparent au travers de ses psaumes. Il n'a pas voulu se montrer un visage quelconque. C'est vrai, il était très près de Dieu, mais il n'a pas aussi caché son humanité. Il peut se faire même que dans les rangs cet après-midi, des personnes sont dans la peur, dans l'angoisse, dans la crainte. Et ils aspirent, tout comme David, d'avoir des ailes. Des ailes pour s'enfuir loin de ce qui pourrait leur arriver. S'enfuir peut-être cet après-midi loin de tout ce qui pourrait vous faire souffrir ou vous tourmenter. Petite question, ne vous est-il pas déjà arrivé d'exprimer un tel soupir? Je vais vous l'avouer, moi, ça m'est déjà arrivé. Désirer quelque part disparaître. Oui, trouver des ailes pour sortir, échapper d'une situation qui m'empêchait même de dormir. Une montagne qui s'élevait devant moi, et j'étais chrétien à ce moment-là. Je ne parle pas quand j'étais pas chrétien. C'est terrible. Dans ces moments, on aimerait que des ailes nous poussent dans le dos, afin de nous envoler bien loin des soucis et des difficultés. Mais voilà, ces ailes, tant désirées, n'apparaissent pas. Vous savez pourquoi? Parce que quelquefois, Dieu lui-même, il veut nous apprendre que la fuite n'est pas toujours la solution. Et comme on l'a dit ce matin, c'est Dieu même lui-même qui nous emmène dans certains déserts, dans certaines épreuves, afin de nous faire grandir, afin de nous faire mûrir. Mais revenons à notre psaume. Et le soupir de David n'a pas été exaucé, bien sûr. Il n'a pas eu, en tout cas, les ailes de la colombe. Mais il a eu quand même d'autres ailes, des ailes spirituelles. Et j'ai envie de dire, faire un jeu de mots, il a eu des ailes, les ailes de la foi. Quand il a dit, par exemple, au psaume 55, du verset 17 à 20, lisez-le avec moi, s'il vous plaît, psaume 55, du verset 17 à 20, il va dire, « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. » Il n'est pas encore sauvé, il n'est pas encore délivré de sa situation, mais la foi le pousse à pouvoir proclamer, déclarer d'avance que l'Éternel le sauvera. Il va dire au verset 18, « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leurs approches et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Mais Dieu entendra et il les humiliera. » Amen. Il reprend le dessus. Ce soupir, oh, que je puisse avoir des ailes, les ailes de la colombe. Mais d'autres ailes ont poussé sur lui, dans son cœur, les ailes de la foi pour déclarer, mais Seigneur, tu ne me laisseras pas dans la fosse. Tu ne me laisseras pas dans ma difficulté. C'est toi qui vas intervenir. C'est toi qui vas te glorifier. David va même plus loin, il va même encourager ses contemporains à se recommander à Dieu quand il dit au verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Lui qui était dans les soupirs, dans l'angoisse au départ, le voilà rempli de foi et qui va même encourager ses frères, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Il va terminer ce merveilleux psaume en renouvelant sa confiance en Dieu, puisqu'il va dire, c'est en toi que je me confie. Cet après-midi, reprends le dessus et déclare devant le trône de Dieu, devant l'ennemi, devant les épreuves, devant les adversités, c'est en Jésus-Christ que je me confie. Et je crois que le Seigneur, qui est le chef et le consommateur de notre foi, eh bien, sera en retour, eh bien, pleinement intervenir dans n'importe quelle situation. Et je voudrais terminer en vous donnant un troisième et dernier soupir. Et ce troisième et dernier soupir, c'est celui de deux sœurs. Quelles sont ces deux sœurs? Allez, un petit quiz. J'ai pas entendu, Sandrine me dit, c'est ça, c'est Sandrine, hein, Marthe et Marie. Dans le mille, Marthe et Marie, qui avaient aussi un autre frère, un certain Lazare. Lazare qui, à un moment donné, était atteint d'une grave maladie. Et comme cette famille connaissait bien Jésus, ils ont fait appel à Jésus pour qu'il puisse venir à bien guérir leur frère qui était bien, bien atteint dans sa santé. Mais voilà, Jésus eh bien, arrive, certains pourraient dire, après la bataille, puisqu'il arrive, mais Lazare était déjà mort. Et c'est alors que, eh bien, on découvre eh bien, le soupir qu'a exprimé Marthe dans Jean chapitre 11, les versets 20 et 21. Jean chapitre 11, les versets 20 et 21. Et nous lisons ensemble. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison. Pourquoi était-elle restée à la maison? Peut-être dans la tristesse, peut-être qu'elle n'était pas au courant. En tout cas, Marthe l'a devancée. Et au verset 21, Marthe, certainement au pied du Seigneur, va dire à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est pas un reproche que Marthe l'a fait eh bien, au Seigneur Jésus. C'est plus justement un soupir. « Oh Seigneur, de peu, tu l'as loupé de peu, si tu aurais été là, oh ça c'est clair. » C'est clair. Marthe était convaincue que la maladie de Lazare n'aurait pas fait le poids si Jésus était arrivé un peu plus tôt, lorsque leur frère était encore gravement, gravement malade. Et puis, on se rend compte que les deux sœurs étaient un petit peu eh bien, en phase, puisque plus tard, quand Marie, à son tour, est arrivée devant le Seigneur Jésus, elle va mot pour mot dire la même phrase que sa grande sœur. « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et ce que je retiens de ce troisième et dernier soupir, ce soupir, il semble nous révéler les limites de la foi que possédaient ces deux sœurs. En fait, Marthe, tout comme Marie, sa sœur, ne connaissait pas assez celui qui a dit, un peu plus tard, « Je suis la résurrection et la vie. » Elle ne réalisait pas que Jésus pouvait non seulement guérir à distance, mais qu'il était en mesure de pouvoir ressusciter. Alléluia, même un mort qui a été enseveli il y a déjà 4 jours de cela. Et je nous pose cette question. Nous croyons, parce que nous sommes des croyants, et un croyant par excellence, il croit. Jusqu'où va notre foi? Quelle est la limite de notre foi? On voit au travers de ce soupir de Marthe et Marie la limite de leur foi, le plafond de leur foi. Oh Seigneur, tu aurais été là, il aurait été encore gravement malade, là il serait guéri. Sous-entendu, maintenant comme il est mort, Seigneur, je ne sais pas. J'ai mis sur mes notes que les limites de notre foi seront en fonction de notre connaissance. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est dans l'un des psaumes, le psaume chapitre 9 et le verset 11. Quand je l'ai lu pour la première fois, il est resté imprimé sur mon cœur et il en dit long sur notre besoin, notre nécessité, même après des années de conversion, de pouvoir davantage connaître notre Dieu. Il nous est dit, psaume chapitre 9, verset 11, « Ceux qui connaissent ton nom, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se plaignent. » Non, dit Marc. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai besoin davantage de connaître le Seigneur. Parce que vous savez, à un moment donné, on a compris que notre ennemi, ce n'est plus le diable. Parce que le diable, oui, il est potentiellement notre ennemi, mais un ennemi qui a été vaincu à la croix, il y a déjà 2000 ans de cela. Quand on a compris ces choses, eh bien, on comprend qu'il est, entre guillemets, cet ennemi, mais sans armes. Mais notre véritable ennemi, c'est cette incrédulité qui vient au galop, qui revient au galop quelquefois, ce doute, cette inquiétude. Est-ce que Dieu peut intervenir dans telle situation? Est-ce qu'il peut agir? Et c'est là où notre combat, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul va parler de combat de la foi. C'est là où notre combat, alléluia, doit pleinement battre son plein, combattre le doute, le refouler, eh bien, autant de fois qu'il vient à nous. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Plus je vais connaître Dieu, plus je vais apprendre ce qu'il est en mesure de faire, plus eh bien, je vais me reposer sur lui et je dormirai tranquille. Excusez-moi, j'exagère. Je vais dormir sous mes trois oreilles, pas sous mes deux oreilles, sous mes trois oreilles. C'est bien souvent notre manque de foi qui limite la puissance de Dieu. Vous savez, quand Jésus est revenu dans son village d'enfance, à savoir Nazareth, la Bible nous dit « il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause du diable ». À cause, on aurait pu trouver plein de raisons. Non, il nous est précisé « il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité ». Et on comprend pourquoi les disciples, à un moment donné, se tournant vers le Seigneur, ils vont dire au Seigneur Jésus « augmente-nous la foi ». Et ça peut être aussi notre prière et notre soupir cet après-midi. Seigneur, augmente-moi la foi. Et que je m'apprenne. Et que j'apprenne à m'attendre à ta toute puissance. Mes amis, ne limitons pas Dieu. Mais sachons que le Dieu que nous servons, et qui est en plus de cela devenu notre Père Céleste, est non seulement omniprésent, il est partout. Il est omniscient, il sait tout. Je le dis souvent, on arrive à expliquer au travers de nos prières ce qu'est notre problème. Vous croyez que le Seigneur il a besoin qu'on lui explique notre problème? Il sait toute chose. Il sait même ce que vous ne savez pas. Vous savez, la vision des brebis, je parlais de le Seigneur qui est le bon berger. Nous sommes les brebis. La vision des brebis n'est pas celle bien, du berger. Berger, comme il est beaucoup plus haut, il a une vision beaucoup plus loin. Nous, les brebis, on voit que terre à terre, quelquefois, juste les vers et gras pâturages. Mais le Seigneur, il a déjà projeté, il nous emmène au loin et il sait nous conduire vers les verts et gras pâturages, mais aussi près des eaux paisibles. Notre Dieu, il est omniprésent, omniscient, mais il est aussi omnipotent, il est tout puissant. Et je le déclarerai jusqu'au bout. Vous êtes devant quelqu'un qui a passé sa tendre enfance dans une église qui se trouvait sur Paris, où il y avait beaucoup de miracles. L'après-midi, les réunions étaient bondées. Et malheur à vous si vous arriviez en retard parce que vous étiez obligé de rester debout dans le hall. Les gens avaient faim et soif de voir la gloire de Dieu parce que des miracles se manifestaient. J'ai vu des gens retrouver la vue. J'ai vu des gens se lever de chaises roulantes et complètement marcher pour la première fois. Des muets retrouver la voix. Et à cause de ce que j'ai vu, je ne peux que annoncer que ce même Jésus qui a agi, c'est le même encore aujourd'hui. Et il est capable encore d'agir. Même cet après-midi, c'est une question de foi. Est-ce qu'on va attendre une ambiance? Est-ce qu'on va attendre un certain nombre de personnes pour que le Seigneur agisse? Si le Seigneur trouve la foi, il va se manifester. Ne me demandez pas comment, il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Il est sur son trône et il fait ce qu'il veut, dit la Bible. J'ai pris pour vous, on est bientôt terminé, un petit témoignage. Un témoignage vrai, on n'est pas là pour raconter des fables. Mais un témoignage vrai qui s'est passé en Afrique. Je vous le lis simplement. Il nous est fait mention là d'un jeune soldat chrétien qui était souvent le sujet de moquerie de son capitaine en chef, juste parce qu'il était croyant. Un jour, devant plusieurs autres soldats, son capitaine décida à nouveau de l'humilier. Il appela donc le jeune chrétien et lui dit « Jeune homme, venez ici, prenez cette clé et allez me parquer cette Jeep en face. » Mais le jeune homme répondit « Mais je ne sais pas conduire. » Et le capitaine le savait bien. Mais il lui répondit devant tous. Faites-le quand même, c'est un ordre. Demandez donc à votre Dieu de vous aider. Montrez-nous qu'il existe. Le jeune chrétien s'exécuta. Il prit la clé et avant de démarrer, invoqua Dieu dans son cœur. Puis il démarra la Jeep et la dirigea comme un professionnel à l'endroit que lui avait indiqué son supérieur. En sortant de la Jeep, le jeune homme vit qu'ils étaient tous à le regarder avec stupéfaction et tous d'une même voix lui dirent « Nous voulons servir ton Dieu ». Le jeune soldat, ne comprenait pas un tel revirement de situation. C'est vrai qu'il venait juste de faire un exploit, il n'avait pas le permis et il ne savait pas conduire. Et il a réussi à déplacer cette Jeep. Il était dans l'étonnement. Il ne comprenait pas un tel revirement de situation de la part de son supérieur et des autres soldats présents. Alors le capitaine, avec beaucoup d'émotion, ouvrit le capot de la Jeep en montrant au jeune homme, au jeune chrétien, qu'il n'y avait en fait pas de moteur. En fait, ils avaient voulu, à commencer par le capitaine et les autres soldats, à nouveau ridiculiser ce jeune chrétien et son Dieu. Mais Dieu, ce jour-là, en avait décidé autrement. Alors le jeune homme chrétien, tout fier, dit « Le Dieu que je sers est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui donne l'existence à ce qui n'existe pas. » Amen, frères et sœurs. Il n'y avait pas de moteur et il a pu la déplacer. Ils ont tous entendu le vombrissement du moteur. Mais il n'y avait pas de moteur. Ça, c'est le miracle de Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est pour cela, pour revenir à notre histoire de Marthe et Marie, à un moment donné, Jésus va se tourner vers Marthe et va lui dire « Mais je suis la résurrection et la vie. » Frères et sœurs, quel que soit ce qui peut être mort dans votre vie, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, Jésus, la résurrection et la vie, est capable à bien de ramener toute chose morte à la vie. Il est tout-puissant, il n'a pas changé. C'est pourquoi n'ayons pas de doute sur la toute-puissance de Dieu. Dieu peut tout. Et je conclurai en disant, n'ayons pas de doute aussi sur le fait que Dieu, qui est omniscient, connaît tous nos soupirs les plus profonds. D'ailleurs, David va le dire dans le psaume chapitre 38, verset 10. « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. » Alors mon frère, ma sœur, quel que soit ton soupir cet après-midi, tourne-toi vers Dieu. Et tout comme ce jeune soldat, invoque Dieu. Mais fais-le avec foi, fais-le avec confiance. Attends-toi à Dieu. Parce que Dieu est beaucoup plus intéressé que nous à pouvoir manifester son bras puissant et opérer des guérisons, si vous avez besoin de guérisons. Opérer des miracles, si vous avez besoin de miracles. Je pourrais vous donner quelques témoignages dans ma vie personnelle. Et vous aussi, tour à tour, on pourrait venir sur le devant et raconter combien notre Dieu est grand. Pourquoi changerait-il ? Le Seigneur, il est prompt à pouvoir agir dans notre cœur, dans notre vie. À nous de comprendre ces choses et surtout à les mettre en pratique. Prions le Seigneur. Alléluia.